Oui, ça fait la deuxième fois que nous parlons ensemble, mais notre numéro n'est pas encore tout à fait au point. Et surtout, l'épisode de Catulle, Jean-Noël l'avait gardé bien précieusement caché. Et donc j'aurais pu réagir sur Catulle et d'autres passages du Kojiki. Mais tant pis pour vous, vous n'aurez pas ces passages-là. Cet exposé n'aurait été possible sans Ono Yasumaro, Virgile et Jean-Noël. Donc qu'ils en soient remerciés. Donc je commence, je ne vais pas répéter l'Énéide et le Kojiki, donc ça j'ai déjà fait une fois, après je suis déjà assez vieux pour éviter de radoter. Donc je vais essayer de parler de Kojiki en tant que texte fondateur, tout bêtement si on peut dire. La préface de la dernière édition ou version française du Kojiki qui est parue en 2011 indique que ce livre est considéré comme un des textes fondateurs du Japon. Cette version n'est pas extraordinaire puisqu'elle a été faite par quelqu'un qui ne connaît pas bien l'anglais sur une vieille traduction anglaise du Kojiki, mais la remarque, comme le Kojiki est un texte fondateur du Japon, n'est pas très originale, mais elle mérite d'être regardée et examinée. Jean-Noël l'a déjà rappelé, qu'est-ce qu'on peut considérer comme texte fondateur? Je vais donner quelques critères et voir si ça correspond ou pas. Dans une ère culturelle ou une ère linguistique donnée, il s'agit d'un texte connu de tous, une sorte d'évidence, dont tout le monde ou presque a une connaissance directe, et pour certains, pour les textes les mieux représentés, dont on peut citer des passages par cœur. Ou, et c'est beaucoup plus souvent le cas, une connaissance indirecte. Beaucoup de gens connaissent l'Iliade, l'Odyssée, l'Énéide, sans jamais l'avoir lu. Ils connaissent des passages, mais ça fait partie de ces choses qu'on apprend sans même s'en rendre compte. Toujours parmi ces critères, la possibilité, assez souvent, qui a été évoquée, de réutilisation de ces textes par des parodies, par des imitations, par des versions modernes. D'autre part, la plupart de ces textes fondateurs, ce concept un peu nouveau, indiquent des textes qui ont dépassé le seul point littéraire et qui ont été déclinés dans différentes formes d'art. Et là, vous avez un exemple de l'épisode de la caverne par les maîtres de l'ukiyo-e. Donc, que ce soit en peinture, en sculpture, quelquefois au théâtre, au cinéma, ce sont des textes qui ont été réutilisés à maintes et maintes reprises. Assez souvent, ces textes, soit dès l'origine, soit par la suite, ont été utilisés à des fins de propagande, à des fins nationalistes. Dans les Nouvelles Nations, ça a été souvent le cas. Sans qu'on puisse donner un sens péjoratif à nationaliste, c'est-à-dire une affirmation nationale, disons. Même s'il peut y avoir des utilisations franchement nationalistes, voire pires. Et dernier critère, c'est valable pour les grands textes de l'Antiquité, c'est-à-dire qu'ils ont dépassé très largement le cadre premier national ou linguistique. Homère est connu bien au-delà des gens qui parlent ou lisent le grec, l'Iliade, la même chose pour le latin. Mais on pourrait dire la même chose pour la Divine Comédie, pour le Don Quichotte, pour les autres. Dans son exposé, Jean-Noël Robert a déjà dit presque l'essentiel, donc je vais broder là-dessus. Et un rappel, donc, puisque c'est souvent oublié, le Kojiki et le Shinto, puisque je vais parler du Kojiki, très souvent on dit le Shinto et on parle du Kojiki, on parle du Kojiki, on parle du Shinto, comme une sorte d'évidence, alors que ça n'a rien du tout d'évident. Ça a été précisé, mais donc j'enfonce le clou, au moment de la rédaction du Kojiki, ce texte n'a rien de religieux. Il a été fait dans un contexte purement politique. On parle des dieux, mais il n'y a pas que les gens qui sont des spécialistes du religieux qui parlent des dieux. Beaucoup d'autres en parlent, et notamment les gens qui ont présidé à la rédaction du Kojiki. Au XIXe siècle, le Kojiki, avec d'autres textes, a été inclus dans des classiques sacrés ou bien classiques divins, donc Seiten ou bien Shinten, pour en faire, pour les sacraliser. Et l'exploitation religieuse là est encore assez ambiguë. Tout à l'heure, enfin, il était question de la Bible. Enfin, c'est une version des années, fin des années 30, début des années 40, enfin, année assez sombre au Japon, où vous avez le Kojiki, le Nihonshoki, le Manyoshu, les Fudoki, les Nolito, Kogoshui, et des extraits de Engishiki. Tout ceci sur papier Bible et la couverture. Enfin, là, normalement, il y a Seiten, mais le Seiten est tombé. Cette utilisation sacralisée du Kojiki ne date pas du IXe siècle. Enfin, déjà, dans le Shinto de Yoshida, donc à partir de la fin du XVe, début du XVIe siècle, le Kojiki avec le Nihonshoki et un autre, le Sentakuji Rongi, ont été considérés comme les trois textes sacrés par cette branche du Shinto. Mais ils ont été sacralisés dans ce contexte-là sans être utilisés. C'est assez bizarre. Enfin, le contenu du Yoshida Shinto n'a rien à voir avec le Kojiki, ou pas grand-chose, puisqu'il utilise beaucoup d'autres éléments, et notamment chinois, bouddhique, etc. Mais il fallait des garants indigènes, et donc on a été chercher le Kojiki sans le citer. Enfin, je n'ai pas trouvé de citation directe du Kojiki dans le Shinto de Yoshida. Actuellement encore, chez les Kanushi, donc chez les prêtres Shinto, quand on pose des questions sur les dieux et la mythologie japonaise, ils vous sortent automatiquement le Kojiki. Parce qu'ils ont été formés à l'université Kokugakuin, où on leur apprend que la bonne mythologie, c'est la mythologie du Kojiki. Mais ceci, c'est quelque chose qui date du XIXe siècle, enfin, et guère au-delà. Et malgré tout, que ce soit dans l'Antiquité, que ce soit maintenant, jamais le Kojiki n'est récité ou utilisé dans des fins rituelles. L'objet, puisqu'il faut faire des petits rappels, donc le sens même du titre, la lecture, comme toujours, même le titre, on n'est pas sûr de la lecture. Bon, on l'appelle Kojiki, mais est-ce qu'à l'origine on le lisait Kojiki, c'est pas sûr du tout. Donc c'est récit des événements anciens, ou bien récit des temps anciens. En tous les cas, sûrement pas récit des choses anciennes. Il y a un beau contresens sur le coteau, là, sur le dit. Donc ce texte a été offert en 712 à l'impératrice Genmei, le 28e jour du premier mois. Mais donc on a une date précise, tout de suite ça fait plus authentique. La préface, puisque ce texte est doté d'une préface, une belle préface en chinois. On va jouer sur les langues, et donc là, il faut bien préciser les choses. Donc, la préface en chinois, avec des belles phrases parallèles, comme le chinois sait le faire, rapporte le processus de composition et dit que ce texte a été commandé par la cour pour donner une version, et une seule version, des différentes traditions relatives aux événements du passé. Donc, la préface indique d'emblée la composante, on pourrait dire, politique du texte. Il a été conçu, écrit, à un moment de crise dynastique, puisque l'initiateur du projet est arrivé au pouvoir grâce à une sorte de coup d'État, à une belle guerre civile. Et c'est aussi le moment où se met en place au Japon l'État à la chinoise, régi par les codes. Et où il y a une vive tension avec la Chine, puisque la Chine, aidée du royaume de Silla, a étendu sa mainmise sur quasiment tout l'Extrême-Orient, sauf le Japon. C'est aussi, donc, fin du 7e, début du 8e siècle, le moment, surtout début du 8e, où le mot de Nihon apparaît au Japon pour désigner le Japon, sous l'influence de Chinois, et pour les Chinois, on pourrait dire, en parallèle et quelquefois en opposition avec Yamato. Dans le Kojiki, on ne trouve pas le mot de Nihon, ni écrit, ni prononcé, ni rien. C'est un autre texte dont je vais bientôt vous parler qui en parle. Le texte toujours, ben, si vous l'avez lu, j'enfonce les portes ouvertes, mais se compose de trois livres qui couvrent tous les événements depuis l'apparition du soleil de la Terre jusqu'au règne de Kenzo. Ben, c'est un empereur qu'on a bien oublié, je trouve, qui aurait vécu à la fin du 5e siècle. Après Kenzo, il y a une suite généalogique qui ne donne aucun renseignement sur les événements. Donc le texte commence par le récit du temps des dieux, avec la descente sur terre, le clou de ce premier chapitre, la descente sur terre du petit-fils céleste, l'ancêtre de la famille impériale. Cette partie donc correspond à ce qu'on nomme ailleurs la mythologie. Le deuxième livre raconte la conquête de l'Est par le premier souverain humain, celui qu'on appelle désormais Jimmu. Autre point fort de ce deuxième livre, c'est les exploits du héros tragique Yamato Takeru no Mikoto. Dernier passage de bravoure, on pourrait dire, c'est la conquête, ou pour être plus prudent, la soi-disant conquête des royaumes de Corée par l'impératrice Jingu, dont il a été question il n'y a pas longtemps. Et ce deuxième livre a été souvent, et de façon, je trouve, assez astucieuse, qualifié de temps des héros, un peu à l'image de la Grèce où il y a le temps des dieux, les demi-dieux, les héros, et on va arriver au temps des hommes. Donc, troisième livre commence avec le règne bienveillant de Nintoku et se termine par le règne donc, de Kenzo, qui renonce à la vengeance. Ce troisième livre, actuellement, me préoccupe beaucoup, parce que alors qu'on arrive au temps des hommes, on s'attendrait à un récit historique et on n'a quasiment pas d'histoire, sauf enfin, de la petite histoire, puisque c'est quasiment des histoires d'alcôve et on retrouve Catulle peut-être, avec au centre une magnifique, on pourrait dire magnifique histoire d'inceste entre frères et sœurs, hein, c'est quand même plus. Si vous voyez que ça commence le temps des dieux, le temps des héros, et on arrive à des histoires émaillées d'un nombre incroyable de poèmes, on a un texte qui peut apparaître comme hétérogène. D'autre part, entre la fin des récits du Kojiki, donc avec le règne de Kenzo qui est aux alentours du 5e siècle, et le moment de la rédaction, début du 8e siècle, vous avez un grand espace de temps. On a aussi noté depuis longtemps que le Kojiki ne dit rien de choses très importantes comme l'arrivée du bouddhisme au Japon. Alors que, et ça on ne le signale pas du tout, il y a des traces évidentes, et puisque c'est noté, l'arrivée du confucianisme au Japon, et il y a bien inscrite. Si, et avec le Kojiki, je pourrais continuer, mais je suis obligé, et on ne peut pas faire autrement, de signaler que presque en même temps que le Kojiki, on a rédigé un autre ouvrage, le Nihonshoki. Là aussi, le titre n'est pas du tout évident. Est-ce que c'est Nihonshoki et ce Nihongi? On trouve les deux lectures. Et même un érudit de la fin de l'époque d'Edo a dit que c'est ni Nihonshoki ni Nihongi, mais c'est Shoki. Le dernier grand commentaire du Nihonshoki, Shoki Shugai, Shoki, il voulait à tout prix que le Nihon ait été rajouté par la suite. Mais ça, c'est une autre histoire. Le Nihonshoki, donc, a été écrit en 720. Il s'agit des annales de l'histoire du Japon. Il est écrit en chinois et il suit la logique des histoires chinoises. Il est écrit en 30 livres contre les 3 livres du Kojiki et il reprend la même matière, donc dans ces 30 livres et beaucoup plus, bien sûr, il le dépasse, notamment les passages du Kojiki sont plus développés dans le Nihonshoki, et le Nihonshoki va beaucoup plus loin, parce qu'il va jusqu'à l'abdication de l'impératrice Suiko en 696 ou 97, j'ai toujours une hésitation sur les deux dates, mais ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est que ce texte, lui, va rester un des textes de prestige de l'histoire et l'histoire littéraire du Japon. Si je reviens au Kojiki après cet épisode de Shoki, quand vous avez un texte, vous devez, ce n'est pas une obligation, mais c'est presque un réflexe, le rattacher à un genre littéraire, que ce soit l'épopée ou d'autres genres. Pour le Nihon Shoki, c'est évident, il s'agit d'une histoire à la chinoise, et même si les deux premiers livres posent problème, pour le reste, il répond bien à cette catégorie, donc histoire. Pour ce qui est Kojiki, c'est beaucoup plus difficile, puisqu'on n'a aucun texte japonais antérieur. Donc, il ne peut pas être la reprise d'un style, puisqu'on ne sait pas ce qu'il y avait avant. A priori, je ne connais pas la littérature chinoise comme on devrait la connaître, mais d'après ce que j'ai lu et entendu, il n'y a aucun texte chinois qui soit comparable au Kojiki et qui aurait pu servir de modèle au Kojiki. Bien sûr, il y a l'Édéide, mais quand même, je ne pense pas que la traduction de l'Énéide soit arrivée jusqu'au Japon. Au début, à la fin du 7e siècle, non, c'est assez improbable. Malgré tout, si on cherche des comparaisons, le début du Kojiki a beaucoup de choses de commun avec la théogonie, enfin, on est dans la même atmosphère, et je ne renonce pas et je renie pas ce que j'ai proposé, l'ensemble peut être comparé au moins en partie à l'Énéide. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais alors que l'Énéide, on vient d'avoir une nouvelle démonstration, n'a jamais été oublié, le Kojiki, lui, a été oublié. Je vais revenir après sur sa redécouverte. Toujours sur l'objet, j'espère ne pas être trop lent. Problème de la langue. Ça a été déjà évoqué, mais il faut y revenir, puisque quand on parle d'un texte fondateur, la langue est aussi importante que le contenu. Et on ne voit pas, par exemple, la Divine Comédie, si on ne connaissait pas la langue de la Divine Comédie, mais uniquement des versions postérieures, on serait, je pense, très frustré. Sans parler du Kalevala, où je pense que s'il n'était pas en finnois, vraiment, ça ne pourrait pas servir de Kalevala. Donc, il faut s'intéresser à la langue. La langue du Kojiki, on la connaît mal. C'est ça le problème. Il est écrit en japonais, ça c'est sûr. Pas d'ambiguïté possible. Sauf que on ne sait pas le lire vraiment. En dehors des chants, donc ils sont transcrits phonétiquement, et eux qui posent d'autres problèmes, parce qu'il y a certains passages qu'on ne comprend pas très bien, le reste du texte est reconstitué. C'est bien qu'il suffit de très peu de choses. Vous prenez deux éditions contemporaines japonaises du Kojiki, et vous avez vraiment beaucoup de chances de trouver deux lectures différentes. Bien sûr, le mot yama, c'est toujours yama, ça, pas de problème. Mais pour les verbes, notamment, et pour certains verbes olé olé, on a des lectures franchement différentes, plus ou moins camouflées, plus ou moins crues. Et surtout, l'un des aspects qui, encore maintenant, gêne beaucoup les commentateurs ou les gens qui essayent de donner des versions en japonais archaïque du Kojiki, c'est l'emploi des honorifiques. Au XVIIIe siècle, on a mis une dose massive d'honorifiques pour rehausser le texte. Et maintenant, on sabre dans les honorifiques et le Kojiki devient un peu plus rugueux. Donc on a un texte pas encore stabilisé. Les kanji utilisés, l'établissement du texte original, c'est-à-dire sans les lectures, lui est à peu près fiable. Enfin, là, les philologues ont fait un magnifique travail, mais pour la langue elle-même, on reste encore frustré. Situation actuelle du Kojiki. C'est un petit peu ambitieux comme titre, mais je rappelle une évidence, actuellement, peut-être pas en France, mais enfin, vous tous ici, vous avez déjà entendu parler, parce que vous avez lu le programme, donc, mais au Japon, enfin, tout le monde a entendu parler du Kojiki, enfin, j'espère. Il y a eu donc en 2012, pour le 1300e anniversaire du Kojiki, un certain nombre de publications, donc on a fait du bruit autour du Kojiki. Peut-être pas autant qu'il aurait fallu, mais enfin, il y en a eu quand même. Et on a vu réapparaître des versions modernes du Kojiki. Notamment deux versions, la reprise donc d'une version de Umehara Takeshi, quelqu'un qui se présente comme philosophe, d'autres le disent que c'est un essayiste, enfin je ne vais pas trancher, qui est assez marqué, assez marqué à droite politiquement, et qui a fait une version du Kojiki, donc en langue moderne, très, très polie, on pourrait dire, avec dans la lignée des gens de l'époque d'Edo. Et une autre version beaucoup plus amusante, de Miura Sukeyuki, qui a donné une version en langue parlée du Kojiki, avec ja ou de janaika ou de deshoka ou des choses comme ça. C'est très dépaysant. Toujours pour ce qui est pour montrer quand même que c'est un texte fondateur, je ne veux pas saper mon travail, les grandes collections de textes classiques japonais, presque toutes commencent par le Kojiki. Donc, c'est le premier ouvrage. Avec une exception, et je n'ai pas encore trouvé la raison, c'est dans la grande collection de Iwanami. Iwanami, c'est l'éditeur classique japonais. Donc, là, vous aviez Iwanami Kotenbukaku Taike, donc l'ancienne, qui commençait le premier volume Kojiki, dans le Shin. Donc, la nouvelle, nouvelle série de Iwanami, il n'y a pas le Kojiki. Et je ne sais pas pourquoi. Mais Shogakukan l'a fait, Asahi, etc. Tout le monde commence par le Kojiki. C'est une évidence. Autre indice de l'expansion du Kojiki, c'est son édition en poche. Donc, si on veut, on ne peut pas avoir comme excuse que je ne peux pas lire Kojiki parce que je ne le trouve pas, ce n'est pas possible. On le trouve dans toutes les bonnes collections de poche. Avec assez souvent le texte répété trois fois, le texte original, la lecture restituée, donc une proposition de lecture en japonais archaïque, et soit une traduction en japonais moderne, soit une paraphrase en japonais moderne. Donc, bien sûr, ce n'est pas parce que les gens ont acheté le Kojiki qu'ils l'ont lu, mais il est raisonnable de penser qu'un certain nombre de personnes qui l'ont acheté l'ont lu, au moins le début. Ce qui apparaît, c'est qu'un certain nombre d'épisodes qui sont dans le Kojiki sont connus. Je vais, assez rapidement, vous allez les énumérer. Il y a la visite au pays de Yomi, puisque ça a servi aussi de comparaison, par exemple, pour les amateurs de mythologie avec le mythe d'Orphée. On a des éléments qui ont été repérés depuis longtemps. La danse de Amenozume, là, on retrouve presque Catulle, le premier striptease divin d'un côté, et de l'autre, c'est l'origine du théâtre, puisque Zéami, dans ses traités, dit que tout vient de cette danse de Amenozume devant la caverne céleste. Autre thème connu aussi, c'est l'octuple décapitation du monstre Yamata no Orochi par Susanoo. C'est un bel épisode où on peut faire un bon morceau de bravoure, pourrait-on dire. Et toujours lié à ce moment du Kojiki, vous avez le premier poème cité dans le Kojiki, mais c'est aussi le premier poème japonais connu qui commence par Yakumo, Tatsu, Izubo, etc., qui est le premier waka. Et ça, même les gens qui n'ont pas lu Kojiki ont entendu parler de ce poème. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a comme épisode? Oui, puisque presque d'actualité, vous avez le lièvre blanc d'Inaba. C'est devenu quasiment un conte, Et beaucoup de gens peuvent connaître le lièvre d'Inaba sans savoir qu'il vient du Kojiki. Oui, tant pis pour vous, je continue. Le mythe de Yamasachi ou Misachi, ces deux frères qui s'échangent, et la visite au pays de la mer, là aussi, on est dans une atmosphère très proche du conte, et c'est un épisode, on va le voir, qui a été représenté. Après, on tombe sur un registre plus sérieux, c'est la conquête de l'Est par Jimmu. C'est quelque chose qui a été très utilisé avant-guerre. Il y a eu même une commission d'universitaires qui est partie enquêter sur les traces laissées, traces archéologiques de cette conquête de l'Est. Je ne sais pas ce qu'ils ont trouvé, mais enfin, ils sont partis. Tout à l'heure, j'en ai parlé, donc Yamato Takeru est très connu. Là, je ne reviens pas sur Jingu et la soi-disant conquête des royaumes coréens. Et l'épisode de Nintoku, cet empereur qui renonce à réparer la toiture de son palais parce que le peuple souffre et qu'il donc renonce aux impôts le temps que le peuple puisse avoir de quoi se chauffer. Tous ces épisodes sont connus, mais il est impossible de savoir s'ils sont connus parce qu'ils viennent du Kojiki ou parce qu'ils viennent du Nihonshoki, puisqu'on les trouve dans les deux ouvrages. Et longtemps, si on faisait avant Meiji, si on faisait des références à ces épisodes-là, c'est dans la version du Nihonshoki et non pas dans celle du Kojiki. Autre aspect assez curieux, c'est que alors que le Kojiki, le Nihonshoki aussi, renferme un nombre assez incroyable, incroyable, c'est plus d'une centaine de poèmes, donc de chants, les kayo, à part le Yagumo Tatsu, presque aucun n'est rentré dans la mémoire collective. Vous avez de très beaux recueils de poèmes, avec des poèmes du Manyoshu, assez anciens, presque contemporains du Kojiki, mais les poèmes, les kayo du Kojiki, ne sont pas rentrés dans la mémoire collective. Parmi les critères, vous vous souvenez, et vous en avez eu la démonstration avec l'Énéide, il y a la réutilisation du texte. C'est évident pour beaucoup d'ouvrages, l'Énéide, mais dans le cas du Japon, le Genji a eu ses imitations, ses parodies, etc. On ne trouve rien de comparable pour le Kojiki. C'est confirmation de son oubli pendant longtemps. Et même quand il est sorti de l'oubli, on a très peu d'exemples de sa réutilisation. Le premier exemple, il est tardif, c'est 1789, et c'est le Kamiyo no Masagoto de Motoli Norinaga. Là, c'est une version un peu plus récente. Ou Kamiyo no Masagoto, c'est-à-dire la véritable parole du temps des dieux. D'une part, il ne reprend pas l'ensemble du Kojiki, et d'autre part, il ne donne pas une lecture érudite du Kojiki, du texte. Il donne une belle lecture, une belle langue du Kojiki. Donc, on pourrait dire que c'est la première adaptation en langue pas tout à fait contemporaine, mais malgré tout du Kojiki. Parler de silence, c'est bien, mais il faut essayer de comprendre pourquoi il y a eu ce silence. Ben, je ne vais pas trouver la clé de l'énigme, mais une grande partie de ce silence s'explique parce que la société japonaise, début du 8e siècle, a évolué assez rapidement, même très rapidement, et elle s'est très vite fortement imprégnée de bouddhisme et de culture chinoise. Le Nihonshoki était écrit en chinois, se trouvait au diapason, on pourrait dire, de cette nouvelle culture, très fortement imprégnée justement de la littérature chinoise. Ensuite, c'est pas très vite, mais assez rapidement, et notamment pour ce qui est de la prose, le Japon, notamment le Japon de l'époque de Heian, donc de l'Antiquité, a produit des textes qui étaient beaucoup plus au diapason de la société. Et bien sûr, c'est le Genji Monogatari, du point de vue littéraire. Je peux rien, j'ai une grande tendresse pour le Kojiki, mais il est clair que du point de vue littéraire, on ne peut pas le comparer au Genji. Enfin, c'est deux mondes différents. D'un point de vue littéraire, le Genji surpasse le Kojiki de sans couder, mais c'est pas le bon critère. Mais là, on a un texte qui va occuper une grande place dans la littérature. Le temps passe et les guerriers arrivent au pouvoir au Japon et eux vont se reconnaître dans un autre grand texte que le Heike Monogatari. Et là, le Kojiki, pour eux, c'est nul et non avenu. Ils n'ont rien à faire avec ces histoires du temps passé. Quand, grâce aux érudits des études nationales sur lesquelles je reviendrai si je l'oublie pas, le Kojiki est revenu à l'honneur, notamment à partir de Meiji, il a souffert d'un autre problème, c'est celui de sa sacralisation. Il est difficile de faire une parodie du Kojiki dans le Japon de Meiji. J'ai du mal à imaginer, puisque quelqu'un comme très sérieux, comme Tsuda Sokichi, un peu plus tard, mais malgré tout, ses articles datent de 1920, hein, qui a osé mettre en doute l'historicité de certaines datations des règnes impériaux, s'est retrouvé accusé de crime de lèse-majesté. Et vous le savez, donc il a été condamné en 1940, au moment de je ne sais trop quel anniversaire de la fondation du Japon, 2600e ou quelque chose comme ça. Donc toucher au Kojiki, c'était toucher à la famille impériale, donc on ne pouvait pas y toucher. Et on pourrait dire que le moment était passé, et dans les temps modernes, on a très peu d'utilisation, enfin, à ma connaissance, et si vous avez des renseignements qui me contredisent, je serais très content, mais le Kojiki a été très peu utilisé par la suite comme texte de base ou sur lequel rebondir. Encore une exception, et c'est très... Je n'ai rien contre, mais je ne suis pas non plus un fanatique, mais Umehara Takeshi, encore lui, a réussi un tour de force. Il avait fait un super kabuki sur Yamato Takeru, toujours le Yamato Takeru. Et il semble que ce super kabuki a eu beaucoup de succès, puisque ça lui a permis, après, de pouvoir inviter des geishas sans problème. Il y a eu tout récemment, enfin, dans les 10 dernières années, des spectacles tournés autour du Kojiki, mais ça reste anecdotique, enfin, ce ne sont pas des grandes œuvres littéraires. Et j'ai une exception, c'est le Kojiki Monogatari. À un moment, c'est un texte qui a été très connu. C'est un texte donc de Suzuki Mieyuki. Non, Miekichi, excusez-moi. Je ne sais pas, les connaisseurs de littérature enfantine connaissent cet auteur. C'est un des fondateurs, si j'ai bien compris, de la revue Akai Tori, l'oiseau rouge. Donc c'est la grande revue de littérature enfantine des années Taisho. Donc le Kojiki Monogatari a été publié en 1919 dans cette revue et réédité très régulièrement. Ce Suzuki était un disciple de Natsume Soseki. Et donc, il a donné ses lettres de noblesse à la littérature enfantine au Japon. Donc, on a une version, bien sûr, édulcorée. Les passages les plus crus du Kojiki, enfin, crus, il ne faut pas exagérer. Enfin, les premiers traducteurs anglais ont traduit des passages du Kojiki en latin. Hein. Mais, malgré tout, ça n'a rien à voir avec Catulle, non. Donc, bien sûr, ces passages-là, on les saute allègrement dans la version. C'est plutôt des morceaux choisis du Kojiki. Mais ça a donné donc une audience très grande au Kojiki, puisque les enfants l'apprenaient dès l'école. Diffusion dans les autres formes de l'art. Depuis le temps que vous la voyez, vous savez où je veux en venir. Cela dit, il a fallu attendre très longtemps avant qu'on ait des illustrations du Kojiki. Et pas uniquement du Kojiki, illustrations même des histoires anciennes. Que ce soit pour la mythologie, par exemple, que ce soit le Kojiki, que ce soit le Nihon Shoki, on n'a aucune illustration ancienne, ou presque aucune. Il y a deux portraits magnifiques qui se trouvent dans la région d'Izumo, qui sont attribués, on dit que c'est Susanoo no Mikoto d'un côté, et Susuliimi, je pense, de l'autre côté, mais l'attribution est discutée. Ben, ce sont de beaux portraits, mais ils sont bien isolés. Et un épisode, Kojiki Nihon Shoki, on ne peut pas savoir, mais un épisode donc, qui a été sujet d'un emaki, donc ces rouleaux illustrés de la fin de l'époque de Heian, c'est le Hikohoro de Mino Mikoto no Emaki. Les noms de Dieu sont un peu à rallonger. En dehors de ces deux exemples, on n'a rien jusqu'au 19e siècle. Pour ce qui est des éditions illustrées du Kojiki, c'est cette édition-là. Enfin, c'est l'édition d'une version modernisée du Kojiki par Motoori. Et elle est très sage aussi. Hein. Attendez, la fameuse scène de Izanagi Izanami, donc les deux protagonistes qui se découvrent hommes et femmes. La seule allusion un petit peu osée, c'est l'oiseau. Puisqu'ils se trouvent hommes et femmes et ils ne savent pas comment faire. Et il dit, il y a un oiseau, c'est le Hoshke, qui leur montre comment faire. Mais et, très curieusement, cet oiseau n'apparaît pas dans le Kojiki, il est dans le Nihon Shoki. Mais l'illustration de Motoori, l'illustrateur voulait quand même montrer qu'il était question de choses importantes. Cette illustration date de 1828. Ensuite, donc, on passe au maître de l'estampe. Du point de vue chronologique, je crois que celle-ci est un peu postérieure. Donc, c'est les Nishikiye, donc ces estampes très très colorées qui sont du, autant que je sache, c'est pas ma spécialité, du début de Meiji. Et donc c'est Konohana Sakuyahime de Hokusai. Mais oh. Bon, je passe. Ensuite, depuis le temps. Là, on passe à autre chose et encore plus intéressant, je pense. Les connaisseurs de l'art japonais le connaissent, c'est Aoki Shigeru. Donc, un peintre occidentaliste, hein, ça, je n'ai pas besoin de le dire pour le comprendre, qui a illustré plusieurs passages de la mythologie japonaise. Donc, notamment, c'est celle que j'ai pu trouver facilement, mais vous avez Yamato Takeru aussi, un passage aussi du pays du roi de la mer, où vous avez une très très célèbre. On a un jeune homme dans un arbre et puis deux jeunes femmes qui sont juste en dessous. Là, c'est Okuninushi qui il est mort et ressuscité plusieurs fois. Et là, c'est un épisode de résurrection. Donc, il avait 80 frères. Hein, et ses 80 frères, elle n'aimait pas beaucoup, donc on l'a tué deux ou trois fois. Et là, vous voyez sa mère qui va presser son sein pour avoir du lait qui va permettre de le ressusciter. Malgré tout, quand on regarde les ouvrages illustrés du Kojiki contemporain, donc qui essaye de donner des... Maintenant, il faut, comme maintenant, je ne pouvais pas faire autrement que montrer des photos. On a du mal à trouver de belles illustrations du Kojiki parce qu'elles sont récentes, peu nombreuses et quelquefois un peu bizarres. Je pense que Diane de Sellier aurait beaucoup de mal à faire un beau volume sur le Kojiki, faute de belles illustrations. Et là, ce n'est pas tout à fait le Kojiki, mais c'est l'auteur de l'illustration que je voulais montrer. C'est Yasuda Yukihiko. Un peintre, enfin illustrateur de Nihonga, c'était un des disciples de Okakura Tenshi. Et il a participé à un grand projet qui était le Chokoku Sogyo Emaki, donc le rouleau de la construction de l'État dans les années 1939. C'est une bonne période bien sombre. Et il est caractérisé par une très grande fidélité dans les costumes. Enfin, il y a une grosse recherche sur les costumes et un style volontairement naïf. Ben, on aime ou on n'aime pas, mais si vous trouvez des ouvrages sur le Kojiki avec des illustrations, très souvent vous trouverez les ouvrages d'illustration de Yasuda. Je crois que ça, c'est une des poétesses du Manyoshu qui est illustrée par Yasuda. Et voilà, je reviens. Le texte, donc, après cet épisode illustré jusqu'à la fin de la guerre, on trouve finalement pas grand-chose, à ma connaissance, sur le Kojiki, sauf des éditions en manga. À partir des années 80, vous avez eu des collections de manga qui étaient Nihon no Koten, donc les classiques japonais en manga, et ils commençaient comme les éditions sérieuses par le Kojiki. Donc j'ai trouvé au moins trois éditions sur le Kojiki, donc en manga des années 80, il y en a peut-être eu par la suite, assez souvent décevantes, puisqu'ils utilisent uniquement le temps des dieux, le reste, ça passe à la trappe, et de façon à. Je pense assez banal finalement. Je reviens. Le temps, ça va? J'ai dépassé de. Bon. Non, j'ai dépassé. Vous avez échappé aux premières traductions en langue. Donc, un point. Excusez-moi d'avoir trop dérapé. À partir de Meiji, le texte est devenu sacré. Et l'utilisation, donc, à des fins nationalistes est patente. Sauf que, par exemple, les militaires, du point de vue de leur formation, préféraient le Nihon Shoki écrit en chinois, plus sérieux que le Kojiki. Et donc, dans un des grands textes du nationalisme japonais, le Kokutai no Hongi, donc l'essentiel de l'essence du japonais, du Japon, on met au début, les citations sont faites du Kojiki dans la version de Motori no Ninaga et du Nihon Shoki. Et si on regarde le texte, les citations sont à 80% du Nihon Shoki. Donc le Kojiki est mis en avant, mais c'est le Nihon Shoki qui est cité. Et je terminerai vraiment là-dessus. Dire que maintenant, l'enjeu politique est quand même beaucoup moindre au Japon et on peut revenir au Kojiki comme un texte et regarder ce qu'il était à sa fondation, au moment de sa création. Et là, je pense qu'il n'y a aucun doute possible, c'est un texte fondateur. Il avait volonté de l'être et il l'a fait avec ses moyens, c'est-à-dire en bricolant quelque chose entre le Japon et la Chine pour démontrer avec des moyens en grande partie japonais, notamment la langue, mais aussi l'utilisation de contrastes entre le feu et l'eau, etc., qui ne doivent rien à la Chine pour légitimer une dynastie. L'utilisation à partir du XIXe siècle ne doit pas être rejetée non plus. D'autres nations se sont servies de textes anciens redécouverts ou réaménagés pour prouver leur nation. Et le nationalisme japonais, après 1939, est indéfendable. Mais à l'époque de Meiji, ce n'est pas forcément la partie du Japon que je préfère, mais le nationalisme japonais du fin du 19e, début 20e n'est pas beaucoup plus virulent que le nationalisme français ou allemand de la même période. Merci beaucoup.